Bonjour, voici Aime l'été. Bonjour à vous tous, ici Chantal Lavoie. Jeudi 15 août, déjà le milieu du mois d'août et bientôt la rentrée. Je vous invite à passer la prochaine heure avec nous. De nouveau, une émission captivante à venir. Nous allons aborder un sujet qui touche tout le monde, l'amitié. L'amitié qui, dit-on, peut être plus profond et plus durable que l'amour. Aussi, des policiers qui vont à la rencontre de jeunes délinquants, oui, en jouant avec eux. Une belle façon d'apaiser les tensions. Mais d'abord, on va discuter de médecine, de santé, de prévention avec un médecin qui est bien connue du grand public et qui est surtout une grande communicatrice. Bienvenue à Aime l'été. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir Catherine Bourderon, recherchiste et chroniqueuse, ici même à Canal M, qui viendra nous parler du livre « S'engager en amitié », une occasion de parler des relations d'amitié qui nous permettent de s'épanouir, de mieux se connaître, de briser l'isolement aussi. Un beau sujet à venir dans la deuxième moitié d'heure. Il sera question aussi de l'initiative « Basket dans mon parc », une façon pour des policiers de favoriser de meilleurs échanges avec les jeunes et de faire de la prévention auprès de ceux qui sont à risque de devenir délinquants. Mais nous allons passer la demi-heure qui suit avec Dr. Christiane Laberge, qu'on a tous vu à la télé ou entendu à la radio, celle qui prodigue ses bons conseils, mais qui vulgarise aussi les différents enjeux de santé. Alors, soyez donc au rendez-vous à Aime l'été. Bonjour Nathalie.
Bonjour, comment vas-tu Chantal?
Mais ça va très très bien.
Je veux te dire que nous sommes le 15 août aujourd'hui, tu dois savoir par contre, mais le 15 août, nous célébrons la fête nationale de l'Acadie.
Exact.
Et les Acadiens sont retrouvés en fait pour leur première convention nationale qui avait lieu le 15 août en 1881.
Oui.
Alors depuis cette date, les Acadiens ont choisi le 15 août pour célébrer, se commémorer leur histoire et célébrer leur culture.
Et on les retrouve un peu partout dans le monde. Hein?
Exactement.
Ben, c'est ça, on les retrouve un peu aux États-Unis. Travers le Canada, ici même au Québec.
Ouais.
Et là, Nathalie, nous allons parler de santé pour la prochaine demi-heure, mais pas juste de santé, parce que, mais on va parler de société en même temps. Et puis, bon, on va parler avec le docteur Christiane Laberge, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Christiane.
Ah, écoutez, Christiane, on vous connaît comme médecin, mais aussi comme une grande communicatrice, vulgarisatrice. On sait que vous n'avez pas la langue dans votre poche, vous avez un franc-parler. La langue de bois, c'est pas votre tasse de thé. Vous êtes un petit peu rebelle aussi à vos heures, mais enfin, alors je pense que tout le monde connaît votre personnalité flamboyante. Alors, on va parler évidemment de toutes sortes de choses, bien sûr, de santé, mais de vous également, parce que vous avez toujours abordé des sujets complexes et vous aviez toujours une façon de nous les présenter de façon très simple. Alors d'abord, ça se passe bien. Vous êtes à la retraite, là, présentement?
Absolument, je suis à la retraite. Je suis une grand-maman heureuse. voilà, la vie va bien pour l'instant.
Oui, exactement. Il faut en profiter de ces moments-là.
Absolument.
Et d'ailleurs, je pense que...
Jour.
Ouais, et puis vous avez su, j'imagine, préparer votre retraite en ce sens que, par rapport au vieillissement, c'est un enjeu important. On vieillit un peu comme on a vécu aussi.
Bien, c'est la phrase la plus drôle que les gens te disent quand, ou la plus surprenante, quand tu prends ta retraite, c'est « Enfin, tu vas vivre! » non, j'ai assez bien vécu tous les jours de ma vie. J'ai adoré le travail que je faisais et que je continue encore de taquiner. On n'arrête pas de comprendre, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas de continuer un profil qui tranquillement va s'améliorer tout le temps. Je dis toujours qu'on a un squelette qu'on nourrit.
Exact. Et puis, un cerveau aussi que l'on nourrit constamment. Mais c'est pas juste un cerveau. Finalement, c'est toute notre hygiène de vie également. Nos amis, enfin, il y a plein de facteurs importants à considérer. L'exercice, plein de choses comme aussi savoir se détendre.
Tout à fait. Il faut, en fait, harmoniser le tout. Trop de détente, tu t'ennuies. Pas assez de détente, tu t'excites plus que d'autres choses. Alors... il faut quand même... La sagesse qu'on attribue aux personnes plus âgées est souvent reliée au ralentissement obligatoire.
Mm-hmm.
Ralentissement de la marche, ralentissement de... Parce qu'on n'a pas 20 ans. C'est pas vrai que 50 ans, c'est le nouveau 20 ans. Non. tu peux avoir suffisamment de botox puis de chirurgie pour te faire croire dans le miroir que tu as encore 20 ans. Mais ton intérieur n'a pas 20 ans et il n'aura jamais 20 ans.
Non, je sais bien. Sauf qu'il y a des gens quand même, ben, comme vous, j'imagine, qui ont su quand même préserver le corps et l'esprit pour justement dire que oui, on arrive à un certain âge et on est plus outillé pour faire face. C'est-à-dire qu'on est encore très performant, c'est ce que je veux dire. D'ailleurs, vous êtes grand-maman. Alors, c'est sûr que les grands-parents aujourd'hui, ils ont pas mal de travail. Souvent.
Oui, ils sont assez sollicités, oui, mais toujours dans le bonheur et on a toujours le choix de dire oui et de dire non. Ça, oui. C'est toujours une prérogative de grands-parents. Je vois souvent des gens autour de moi qui sont grands-parents et qui sont esclaves de leur famille et ça non plus, c'est pas désirable au même titre que n'importe quel esclavage.
Exact. Parce que, justement, vous avez été très occupée. Bon, vous avez eu des enfants, vous aviez un conjoint qui s'occupait beaucoup de l'aspect plus domestique. Ça lui faisait plaisir. De toute façon, il avait, disons, ses horaires étaient organisés pour ça aussi. Et les vôtres, évidemment, on comprend que c'était plus difficile. Mais vous avez toujours un peu fonctionné en tiroir. C'est un peu le secret, peut-être, pour justement faire une chose à la fois et bien la faire?
J'ai jamais été capable. Mais en fait, pas tant. Non. Je faisais beaucoup de choses à la fois.
Oui, il me semblait.
J'ai un petit trouble de déficit d'attention, là, tu sais. Donc, j'étais capable de suivre trois conversations à la fois. Mm-hmm. Quand je travaillais à l'urgence, étant jeune, t'entendais ce qui se passait dans le corridor pour savoir si t'avais des signes de toux ou des symptômes que t'entendais à travers la porte, ou en tout cas, quand tu passais dans le corridor, t'avais aussi dans la salle d'observation quand ton interne est en train de, ou ton résident est en train d'examiner un enfant, t'avais quand même un petit œil, t'avais l'observation, puis t'essayais de regarder tout ça en même temps, savoir s'il n'y avait pas de la dégradation quelque part. Mais c'est quelque chose que tu arrives à intégrer sans t'en rendre compte.
C'est ça.
Un
parce
peu
que
comme vous, des conversations à table.
Vous étiez 100% présente dans chaque chose, c'est ce que je veux dire finalement.
Ben, T'essaies. En tout cas, quand tu es en relation, c'est sûr que tu essaies d'être à 100%. Je vous dirais qu'actuellement, dans notre environnement, il faut vraiment volontairement mettre le téléphone de côté. Il faut volontairement se couper et être disponible. C'est pas quelque chose qui va de soi pour tout le monde. Parce qu'on est tellement habitué aussi de regarder les têtes d'affiche, regarder les grandes lignes, dire « Ah, j'ai compris » qu'il faut continuer de lire de façon, aller chercher des lectures un petit peu plus poussées pour nous forcer à peut-être même lire à haute voix pour mieux comprendre. Parce qu'on est quand même plus papillonnant qu'avant au niveau des lectures. Mm-hmm. Donc, même quand on est habitué de lire beaucoup, aujourd'hui à l'université, les étudiants, 15 minutes de concentration, c'est beaucoup.
Oui, je comprends.
Docteur, vous parlez de tout ça, mais est-ce que vous êtes capable vous-même d'appliquer ça au quotidien? Donc, vous prenez votre temps, vous lisez, vous continuez de vous instruire.
Oui, je me force. Je me force à lire les concepts, à lire des nouvelles choses, à lire des choses un peu plus compliquées, des chapitres que tu dois, dans ta tête, faire un résumé de ça pour arriver à intégrer. Donc, pousser un petit peu plus que le roman qui est agréable et le polar et peu importe. Mm-hmm. Mais aussi des balados qui vont t'amener un petit peu plus loin, des lectures qui vont t'amener un petit peu plus loin à réfléchir aussi, puis à reculer. On a beaucoup dans notre société valorisé l'avancement. Mais je pense que quand on prend de l'âge, on a une capacité de reculer, ce qui n'est pas mauvais pour l'entourage non plus.
Mm-hmm. Mais c'est ça, on valorise beaucoup l'exercice physique. Mais là, vous le faites. Il faut valoriser aussi, parce que le cerveau est un muscle. Il faut le travailler.
Bien, il faut travailler la mémoire. Il faut travailler les associations. Par exemple, si vous dites, moi j'ai pas de problème, là, mes problèmes cognitifs, là, j'en aurai jamais parce que je fais des mots croisés tous les jours. Mais je fais ça les doigts dans le nez, bien, change d'exercice parce que c'est pas bon pour toi.
OK.
Change de défi au niveau de tes capacités. Parce qu'il faut trouver des synonymes, il faut trouver... Par exemple, si tu prends la lecture du dictionnaire tous les soirs, si tu as de la misère à t'endormir, c'est très efficace. Mais en même temps, c'est que ça enrichit le vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est quelque chose qui te permet de réfléchir et de penser. Quand j'écoute parfois des radios d'État même, où j'entends la jeune fille qui fait son reportage de 6 minutes et il utilise 10 fois le mot « super », mais tu viens d'atrophier le vocabulaire. Mm-hmm. C'était super bon, c'est allé à un super spectacle. Parce que ta vie, là, quand tu vis toujours dans le super, c'est plate en chien.
Ouais, il faut des nuances.
Il faut des nuances.
Absolument.
Des choses savoureuses, intéressantes, goûteuses. Ouais. Mais c'est, des fois, c'est à une odeur extraordinaire, mais c'est un goût ordinaire. Donc, tout n'est pas super et on atrophie avec mm-hmm. ça. Puis on atrophie aussi le langage affectif. Mm-hmm. On n'a plus de langage. Je vais bien. Oui, c'est ça, mais encore.
Mm. Mais oui.
Ben, c'est ça.
D'ailleurs, pour vous, c'était quand même votre défi, mais encore, parce que quand vous avez un patient qui vient vous voir, vous avez toujours un peu agi comme un détective, finalement.
La médecine familiale, c'est drôle, parce que quand on avait des résidents, puis on leur disait, quel est le cas le plus intéressant? Celui dont le dossier, l'infirmière a marqué, l'infirmière au tamisage a marqué diabète décompensé ou fatigue? Là, évidemment, ils se lançaient sur le diabète décompensé. Ben oui, le diabète décompensé, là, ton patient, tu le regardes, OK, mais tu appliques une recette de cuisine. Mm-hmm. Parce que quand tu as un diabète décompensé, tu fonctionnes toujours à peu près selon le même protocole. 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste de ne pas oublier une des étapes, mais 1, 2, 3, 4, 5. Ton patient fatigué, oh là là, pourquoi est-il fatigué? Mm,
c'est ça.
Et là, tu poses les questions, tu écoutes les réponses, puis là, tu fais une synthèse de tout ça et tu dis, statistiquement, c'est plus de ce côté-là que de ce côté-là. Mais souvent, je disais aux étudiants devant un mal de tête atypique, très atypique, avec quelques fanions rouges, je disais, regarde dehors ce qui vient de passer, là. Il y a une queue noire qui vient de passer au galop. C'est un cheval ou un zèbre? Mm-hmm. Statistiquement, c'est un cheval. Mais il faut que tu élimines le zèbre. Alors, si tu n'es pas capable d'éliminer, de signer en bas, je t'assure que ce n'est pas un zèbre, bien, tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu examines. Il faut que tu touches, il faut que tu regardes, il faut que tu écoutes, puis il faut que là, tu poseras l'investigation nécessaire, tu prescriras l'investigation, et il faut que tu sois capable de recevoir la réponse de ton investigation et de donner le suivi. Parce que c'est ça qui, actuellement, une des raisons pour lesquelles je n'étais pas fâchée de prendre ma retraite, c'est le fait que presque, je te dirais régulièrement, socialement, les gens nous racontent des histoires et nous, dans notre tête, on se dit, mais à quoi ils n'ont pas pensé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas écouté? Quand je regarde une émission comme Stat, où le petit gars s'est auto-circoncis, puis c'est le préposé au bénéficiaire qui va le découvrir plutôt que le médecin qui l'a accueilli à l'urgence, je viens folle. Je me dis que ça
oui, je comprends. Mais
ils l'ont pas questionné, ils l'ont pas examiné, ils n'ont rien fait. Mais ils l'ont traité, ils ont sauté dessus, puis ils ont donné des antibiotiques, mais ça vient d'où cette infection-là? Ça me semble que c'est une question pas compliquée, là.
Mais ce que vous me disiez, c'est que quand on s'est parlé au téléphone, vous me disiez que c'était super important en tant que patient d'arriver à l'hôpital et de décrire nos symptômes, ce qu'on a vécu dans l'ordre chronologique. Importance vitale de décrire à telle heure, j'ai fait 38,2, à telle heure. Donc, c'est important pour le patient aussi d'être très assidu dans son, son comportement quand il arrive à l'hôpital.
Le patient n'a qu'un patient à suivre. Nous, on a plusieurs histoires à se raconter.
Ouais.
Mais la meilleure façon que ça reste dans la tête du praticien, c'est de se faire raconter une histoire.
C'est ça.
Si, par exemple, je vous dis, vendredi soir, j'ai eu des gros frissons, j'ai eu mal à la tête, j'avais mal partout, j'ai pris ma température au thermomètre, je faisais 38,5, je me suis couchée avec un médicament, de la Lénol, Advil, n'importe quoi, pour baisser ma fièvre. Dans la nuit, je me suis réveillée, j'étais encore dans le même état. Le lendemain, j'ai commencé à tousser, et puis tout de suite, j'ai toussé. Bien, ça allume tes lumières du côté, oui, de quelque chose de grippal au mm-hmm. départ, mais avec de la toux seulement, sans autres symptômes, attention. Alors que si tu as commencé par de la toux, et que quelques heures plus tard, tu as commencé à faire de la fièvre, un mal de tête sans douleur musculaire, ça fait plus penser à une pneumonie.
Mm-hmm, bien sûr.
Alors, cet étalage de symptômes dans le temps va nous amener à un diagnostic plus précis.
C'est ça.
L'autre chose, c'est que la fièvre, il faut savoir, juste entre vous et moi, qu'en vieillissant, notre température basale peut baisser. Moi, j'avais des madames de 90 ans qui faisait une température normale à 35,7. et non pas à 37,2 comme tout le monde statistiquement.
C'est vrai. Ça existe.
Donc, cette madame à 35,7, si elle fait 37, elle est en état de fièvre.
Tout à fait.
Donc, je mettais des fois... j'étais une amie du post-it dans le temps qu'on n'avait pas les ordinateurs avec les téléphones cellulaires dans la poche. On avait un post-it sur lequel je mettais le nom des médicaments du patient en arrière de sa carte d'assurance maladie quand il ne pouvait pas le faire lui-même. Et je mettais température basale si c'est indiqué. Je ne mettais pas 37 si tu as 22 heures et c'est une température normale. Mais si tu avais une température anormale de base, je mettais température normale 35,5.
Alors, c'est le petit détail à savoir. Bien
c'est
sûr,
un petit détail.
Alors, c'est tout ça, finalement. Vous avez agi un peu comme un détective et, parce qu'il y a des patients qui dissimulent, qui ne disent pas les choses correctement. Ça, c'est tout le problème. Quand on a vu un médecin puis qu'on n'a pas du tout dit puis qu'on a oublié de dire des choses, ben là, ça va aller au prochain rendez-vous puis ça peut être long. Et puis, quand on n'a pas su, évidemment, s'auto-analyser là, dans
mais ça ne veut pas dire, tu sais, à 2h22, je faisais 38 de fièvre puis à 2h45.
Non, bien sûr.
Mais c'est pas dans ce contexte-là.
C'est pour ça que vous devez toujours gratter, aller plus loin. C'est ça qui est complexe, oui.
Ce qui nous choque, là, je vais te le dire. Supposons que le patient a dit, bon, ben vous avez mal au cœur. Ah oui, vous avez mal au cœur depuis quand? Une petite secousse.
Une petite secousse, ouais.
Une petite secousse. Ça veut-tu dire 2 heures, deux jours, 2 mois? Mm-hmm. Alors, il faut relativiser. Il faut essayer de voir. Puis l'autre affaire, l'autre question, l'autre réponse qui va nous choquer, c'est, je me suis fait mal, OK? Qu'est-ce que vous avez pris? Ah, ben, je savais pas quoi prendre. C'est que j'ai rien pris. Oui, mais c'est parce que peut-être si tu avais pris un Tylenol, ça nous aurait donné une idée. Si tu avais pris un Advil, ça nous aurait donné une idée. Si tu avais mis de la glace, ah, mais je savais pas quoi mettre. Tu sais, il y a 8-1-1 hein, qui peuvent t'aider. Mm-hmm. Avec
tout à fait.
Conseils généraux.
C'est un service
donc,
important, oui. Oui,
oui tu es capable de téléphoner, tu es capable de te débrouiller. Tu n'as même pas besoin d'ordinateur.
En fait, c'est même mieux d'appeler 811, j'imagine, Dr Laberge, que d'aller sur l'ordinateur, parce qu'on peut y trouver un peu de n'importe quoi là-dedans.
Par contre, tu peux aller sur l'ordinateur de façon très positive. Par exemple, t'as l'alternance diarrhée-constipation, ça fait 5 ans que c'est comme ça, tu sais pas trop ce qui se passe, on parle peut-être de syndrome du côlon irritable, de l'intestin irritable, tu t'en vas sur maudevente.org, qui est le site validé des gastro-entérologues, et tu as un beau petit vidéo qui va te montrer exactement ce que c'est, quoi faire, comment faire. Tu peux aller à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, tu dis, oh mon Dieu, j'ai commencé à faire de la fibrillation auriculaire, ça mange quoi en hiver? Tu t'en vas sur Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, et tu vas avoir tes réponses validées par des gens qui connaissent ça pour vrai.
Ouais.
Pas ton beau-frère qui a entendu dire par le gars qui l'a eu.
Non, ce sont des sites officiels, exactement. Alors donc, tout ça, il faut en tenir compte. C'est vraiment très intéressant aussi de dire aux gens de savoir comment, quand on c'est bien beau là, d'aller voir un médecin, mais en tout cas, tu sais, des fois, il faut s'aider aussi soi-même pour le médecin que ce soit plus facile aussi. Parce
Il faut s'aider un peu.
Exact.
L'autre chose, c'est que si tu as eu, par exemple, un syndrome grippal il y a 2 semaines, puis que tu as pris ton rendez-vous, malheureusement, tu as eu ton rendez-vous aujourd'hui, mais tu n'as plus rien. Tu es comme d'habitude, 4 jours après, tu étais parfait.
C'est ça.
Tu as le droit de téléphoner puis de dire, je pense que je n'aurai pas besoin de vos services aujourd'hui. Tu peux en profiter, cependant, si tu n'as pas vu le médecin depuis 5 ans, peut-être que ça serait une bonne occasion de faire un petit tour de jardin qu'on appelle.
Parlons de symptômes grippales. On a des petites questions pour vous.
Oui.
D'abord, là, évidemment, il y a un regain de COVID, hein, en passant.
Ça m'écœure.
Ouais. Alors là, on va penser à la vaccination automnale aussi.
Je vais chicaner. Okay?
Ouais,
là, je vais chicaner sérieusement.
Allez-y.
D'abord, le vaccin actuellement pour la moyenne des ours n'est pas vraiment au maximum de son efficacité.
Hein? Il va falloir attendre plus
l'automne.
Il est déjà
dépassé. Ouais. Donc, pour la population générale, on va attendre qu'il sorte le nouveau vaccin.
Pour le nouveau variant, c'est ça.
Voilà, pour le nouveau variant qui devrait sortir théoriquement autour du mois de novembre, plus ou moins. Deuxièmement, ce qui me met en bourgeois le vert, c'est qu'on a des tests COVID, de dépistage COVID, qui dorment dans les entrepôts, qui vont devenir périmés au mois de décembre. Actuellement, on a une recrudescence. Et la recrudescence est tellement facile à suivre. Tu suis l'eau usée. Parce que je regrette, moi, quand tu as une COVID, tu vas encore faire pipi caca. Hein?
Oui, c'est ça. Donc, on peut retrouver des traces. Oui, je comprends, dans l'eau.
Le virus, même des gens qui ont peu de symptômes, un petit nez qui coule, une petite toux, mal à la gorge un peu, doit avoir un petit rhume. Comme on n'a pas de façon de faire le dépistage des tests, la personne continue dans son milieu à dire, ben, j'ai juste un petit rhume. Elle ne met pas son masque. Elle tousse, elle éternue. Un bon éternuement, ça va vous lancer ça dans le mur du fond du corridor. Alors, si vous êtes par hasard un passager du corridor, vous risquez de l'avoir en pleine tronche. Mm-hmm. Vous ne portez pas votre masque parce que il fait 32, c'est pas pour porter un masque. Et c'est normal. Mm-hmm. Sauf que si on sait que votre petit clin qui vient d'éternuer a une COVID, puis que vous voyez tous les gens autour de lui qui ont un gros rhume avec, puis t'en as un qui perd l'odorat pour 6 mois. Mm-hmm. T'as pas ça avec un rhume.
Mm-hmm. Donc, vous priorisez la distanciation, le port du masque, si on reste à la maison si on est malade.
Si vous avez un rhume, oui. C'est-à-dire que vous avez des symptômes légers de COVID, présumez que c'est une COVID jusqu'à preuve du contraire.
Mmh, je comprends.
Donc, si vous avez de la fièvre, vous ne sentez pas bien, puis tu vas rester chez vous, faites du télétravail. Puis si vous avez à sortir, aller à l'épicerie, etc., mettez votre masque.
Exact.
On a 1000 hospitalisations en période de pénurie de personnel.
Mm-hmm. Alors, c'est pas une bonne idée, effectivement.
Actuellement, on a des gens de la santé publique là, qui pourraient mettre leur culotte puis dire, oui, on a plus de COVID, oui, on va ressortir les tests, oui, vous allez pouvoir venir les chercher sans payer 10 $ le test quand vous y avez accès, et qu'on vous rabasse, qu'on ne vous rabatte pas les oreilles en vous disant, ah, oh, mais on considère que c'est comme un rhume d'une grippe. Mm. Ah oui? Avez-vous des rhumes longs? Avez-vous des gens qui sont handicapés par leur rhume? Avez-vous des gens qui perdent l'odorat des fois de façon... Il y en a là qui c'est pas revenu depuis 3 ans.
Absolument, l'odorat. Oui, mm-hmm. C'est vrai.
Alors, il y a des symptômes importants. Et l'autre chose qu'on ne sait pas, ah, mesdames,
allez.
Si tu perds ton odorat et que tu as une grande fatigue et que tu as une arythmie cardiaque avec ça, mm-hmm. juste quelques mois, est-ce que tu endommagerais des cellules nerveuses pour longtemps? Mm.
Donc, ne pas minimiser finalement l'importance de...
Non, mais il y a juste la santé publique qui minimise ça.
Je comprends. Mais alors, puis il y a là, d'autant plus qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. On parle de variole simienne. On ne va pas entrer trop dans les détails parce qu'on n'y arrivera pas. Mais chose certaine, il y a la vaccination, la coqueluche, la rougeole. Enfin, il y a plein de choses comme ça dont on pourrait parler longtemps. On pourrait être 3 heures avec vous, c'est sûr. Mais chose certaine, c'est vraiment, il faut faire très, très attention à tout ça. Mais
la coqueluche, c'est une autre affaire. Si on insiste comme personne, par exemple, dans une garderie, il y a une éclosion de coqueluche. On sait que la coqueluche, ça commence par un petit rhumette. Quand je dis rhumette, là, petit léger mal de gorge, un léger guédille, un léger tout au départ. Ça dure quelques jours et tout à coup, tu te mets à tousser de façon importante sous forme de quinte. Quand tu as une bronchite, tu tousses 3-4 coups. Alors que dans la coqueluche, tu vas tousser en ligne 10-12 coups. Tu n'es pas capable de reprendre ton souffle. Et quand tu le reprends, tu reprends en faisant un bruit ou pas. Si tu as été vacciné récemment, tu peux le faire de façon plus faible. Tu vas avoir la toux de 10-12 coups, mais tu n'auras pas le « qui est le chant du coq.
Je comprends.
Alors, ça peut tromper. Donc, si dans une garderie, tu as une éclosion, on pourrait-tu faciliter en disant, dès qu'un enfant de ce groupe-là a la morve au nez puis il a l'air un petit peu enrhumé, on pourrait-tu l'envoyer faire un test de PCR? Mm-hmm. Le PCR nous donne la réponse rapidement. On commence un traitement antibiotique de 7 jours dans les 7 jours où tu as le début de l'infection parce que c'est une bactérie qui laisse traîner sa toxine qui te fait tousser pendant 6 semaines. Et on diminuerait, la contagiosité. Au lieu de garder ton flot parce que tu viens d'avoir un petit bébé, tu comprends? Tu n'es pas pour envoyer tes flots à la garderie quand tu sais qu'il y a une éclosion de coqueluche et que ça prend 2 semaines à avoir le diagnostic parce qu'il faut que tu vois le docteur, que le docteur te donne la prescription pour aller faire ton test,
test
qui n'est pas toujours
difficulté.
Un PCR, recevoir ton test, puis là, dire, madame, votre fils est positif, puis là, que tu aies assez de marge pour lui donner son antibiotique, pour diminuer la contagiosité. Ouais. Pourquoi on fait pas un axe rapide? On a des centres de dépistage. Pourquoi on s'en sert pas?
Exact.
Je ne comprends pas.
Oui, bien évidemment, alors la base, c'est de justement de la prévention,
de la distanciation. Oui. Il y a les gens qui ont, évidemment, il y avait de nombreux festivals cet été, grandes manifestations, les voyages aussi. Les gens ont beaucoup voyagé au début de l'été. Alors forcément, ça a favorisé la contagion, notamment pour, pour ce qui est de la COVID. Et puis là, bon, on parle, comme on l'a dit dans les journaux, là, la variole simienne qui est rendue au Canada aussi. Alors, il y a des cas. Ça, évidemment, c'est une contamination qui est beaucoup plus intime, mais tout de même.
Absolument.
Alors, il faut s'assurer...
Le port du condom, c'est la même chose. Depuis qu'on a la PrEP, là, actuellement, il y a des gens qui prennent un médicament préventivement ou curativement après la relation, en guillemets, dangereuse. Mais on a plus de syphilis. Comment ça traite la syphilis? La même façon que ça traite le VIH en général. Mm-hmm. Donc, les gens se pensent très protégés, très invulnérables parce que maintenant, ça se traite facilement. Ah ouais, il n'y a pas d'effet secondaire au médicament? Ben non, c'est une maladie chronique maintenant. De telle sorte que les gens sont un petit peu insouciants et pensent que leur vie, elle est en passant par le numérique. Ben non, ça passe pas par le numérique, ça passe par la vraie vie. Si je te regarde dans les yeux puis que je me dis, elle me dit-tu la vérité? Tu sais, quand on était petit, on jouait à un jeu qui s'appelait la bullshit aux cartes. Et on s'habituait, ou quand on jouait aux 8, aux 500, n'importe quoi. Tu sais, je te regarde pour voir, t'as-tu du jeu pour me compléter? T'as-tu quelque chose? Tu sais? Puis là, on essaie de deviner. Aujourd'hui, jouer à ça avec des enfants qui sont toujours sur l'écran. Ils sont incapables de lire le visage humain.
Mm-hmm. Ah non, ça, vous avez raison là-dessus, oui.
Vieux aussi,
ouais,
là.
Peut-être, oui. Chose certaine, écoutez, docteur Laberge, vous êtes à la fois, bon, c'est vrai, très critique sur plein de choses. Vous avez quand même œuvré pendant 40 ans dans le domaine de la santé. Alors, c'est sûr que vous avez une grande expertise. Et bien, vous voyez, évidemment, tout ce qui est essai-erreur. Là, on met en place des grandes structures. Alors, évidemment, on ne peut pas rentrer là-dedans. Non, c'est ça, je sais.
Parce que...
Ça ne nous rapproche pas plus du patient, ça, hein, Dr Laberge. Alors, ça, c'est sûr.
Quand on voit les dirigeants qui n'ont même pas rencontré les représentants des 80 000 femmes qui travaillent au sein du service de base, ça parle. Ça va se passer entre nous. En haut.
Oui, je comprends. Alors, docteur Christiane Laberge, vous auriez plein d'autres choses à vous dire, enfin, à nous dire, parce que là, on pouvait, j'avais des sujets, plein de sujets pour vous, mais enfin, on est obligé de se quitter. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne retraite aussi. Et merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Merci, on se reprend.
On se reprend
beaucoup,
certainement.
Christiane, au revoir.
Au revoir, mesdames. Bye.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Et on va accueillir ici Marc-Alexandre Petit. Bonjour, Marc-Alexandre Petit, vous êtes un policier.
Oui, bonjour Madame Lavoie, merci de me recevoir à votre émission.
Bonjour, alors très heureuse de vous recevoir.
Petite question, on dit Petit ou Petit?
C'est Petit.
Ah, Petit, je m'excuse. Oui. Je m'excuse. Oui. Petit. Voilà. Alors, écoutez, vous êtes, non seulement policier, mais en fait, vous êtes un féru de basketball, vous êtes aussi, vous faisiez partie de l'escouade Equinox, hein, chargée de collecter de l'information sur le crime organisé et les gangs de rue. Alors, vous êtes, une encyclopédie sur deux pattes en matière de criminalité, là. Alors, vous en connaissez pas mal sur le sujet, mais en fait, vous avez développé, vous avez développé ce projet Basket dans mon parc. Alors là, vraiment, je trouve ça fascinant. Vous avez développé ce projet-là justement pour un petit peu, de réduire les tensions entre les policiers et les jeunes délinquants, si on veut, les gangs de rue, les jeunes qui sont aussi à risque de délinquance.
Oui, c'est exact. En fait, c'était une des raisons d'avoir mis en place ce projet. C'est principalement pour un rapprochement communautaire entre les jeunes et la police, changer un peu l'image de la police envers les jeunes. Puis c'est aussi, on voulait donner un endroit sécuritaire aux jeunes pour venir pratiquer le sport de basketball que j'aime le plus au monde. Puis, en fait, c'est ça. Surtout, vu que l'école est terminée, que les jeunes n'avaient plus d'encadrement vraiment là dans les établissements scolaires, je voulais vraiment qu'il y ait une activité À chaque semaine pour venir se défouler. Puis aussi, quand ils se défoulent, ben ils ne veulent pas, ils ont moins l'énergie pour faire les niaiseries ou sont moins, la tendance est moins là pour faire des petits actes criminels dans les parcs, là.
Exactement. C'est un rôle quand même, vous êtes spécialisé donc en prévention et c'est un rôle maintenant que l'on retrouve de plus en plus. Là, on cherche évidemment à être beaucoup plus présent et on sait qu'on veut éviter tout dérapage. Alors, il y a quand même l'aspect communautaire de votre travail aussi est de plus en plus valorisé.
Oui, c'est sûr. Quand on fait affaire avec des gens à la prévention qui aiment la police, qui veulent voir la police, c'est sûr, comme policier, c'est motivant. Qu'est-ce qui est vraiment excellent puis super pour, dans ce projet de basket dans mon parc, c'est que j'ai la chance et le privilège de travailler avec les organismes communautaires du secteur de Chemédé. Je parle du Trill de Laval, la Maison des jeunes du Centre communautaire Val-Martin, Air ouverte, ça clique, le projet Sage aussi. C'est tous des organismes qui ont embarqué dans le projet là à 100%. Puis, par l'entremise de ces organismes, ils nous amènent des jeunes qui fréquentent ces organismes-là.
Des jeunes donc qui sont ciblés, c'est ça que vous dites?
L'événement est ouvert à tous.
OK.
Mais c'est sûr que en faisant de la publicité puis en rencontrant certains intervenants de ces organismes-là, il y a des jeunes vulnérables qui les fréquentent. Puis c'est surtout ces jeunes-là que j'aimerais rejoindre, puis inviter, puis apprendre à connaître, afin qu'ils puissent avoir un modèle policier là, de référence, puis un modèle positif policier surtout.
Ouais.
Mais avec ces partenaires-là, qui sont cruciales dans la réussite de mon projet, sans eux, ça n'y aurait pas un aussi bon succès. Puis à chaque semaine, tous ces organismes-là, ils font de la publicité sur leurs réseaux sociaux, ils parlent à leurs jeunes qu'ils voient au quotidien, puis ils invitent, puis ils leur rappellent, « Hey, n'oubliez pas, exemple jeudi, ça se passe tous les jeudis soirs au parc Coccinelle pour la saison estivale de 18h30 à 20h30. » Puis ils invitent les jeunes à venir participer au projet, puis dépenser de l'énergie, rencontrer des policiers, parler s'ils veulent parler, sinon on fait juste jouer au basketball, puis... C'est ça.
Alors, ça paraît simple, hein, mais c'est moins simple qu'on peut croire, dans le sens que ça prend beaucoup de doigté, de psychologie aussi pour quand même que les jeunes vous fassent confiance. Et à travers le jeu, c'est tout ça qui se développe. C'est-à-dire qu'on est, entre guillemets, des ennemis ailleurs, mais sur le terrain de jeu, finalement, on arrive à se parler et à se comprendre.
Exactement. On veut changer un peu l'image de la police quand les jeunes sont interceptés dans les parcs ou sur la route. Des fois, ça se déroule pas bien, ils ont des mauvaises expériences. Des fois, c'est leur première expérience avec la police. Donc, on veut changer cette image-là. Puis des fois, il y a des jeunes qui vont nous poser des questions sur les interventions policières qu'ils ont eues dans le passé. Puis nous, on peut commenter un peu vaguement parce qu'on n'était pas là, évidemment. Mais on peut leur expliquer un peu la perspective là, de policière derrière une intervention, mm-hmm. du pourquoi qu'ils ont intervenu d'une certaine manière. Donc, ça peut aussi là, éduquer les jeunes pour ouais. une prochaine intervention.
Désamorcer, exactement, peut-être.
Ça se déroule mieux.
Oui, pour un éventuel ouais. dérapage. C'est ça qui est important aussi, c'est que vous les éduquez pour justement savoir aussi comment se comporter quand cette situation-là arrive pour éviter le pire.
Exactement.
Alors ça, c'est vraiment... Et on a, évidemment, là, on sait qu'on en parle beaucoup dans les médias partout, mais bon, je lisais aussi qu'on amplifie le phénomène. Bon, c'est quand même, oui, la criminalité dans son ensemble a baissé, mais c'est vrai que chez les jeunes, il y a une certaine culture des armes à feu. Il y a quand même des choses qui sont présentes, là. Donc, c'est sûr, mais c'est pas dire que tous les jeunes, il faut faire attention dans notre analyse, hein, de pas dire que là, la violence chez les jeunes, c'est vraiment en augmentation. C'est pas nécessairement le cas.
Écoutez,
au niveau des écoles, c'est pas ça qu'on dit.
Ben non, mais je pourrais pas parler de statistiques ou rien de tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la culture d'armes à feu chez les jeunes, sur les médias sociaux surtout, c'est quand même populaire en 2024. Ouais. Et depuis les dernières années, on le voit. Puis c'est aussi cette idéologie que j'essaie de changer. Je pourrais pas faire ça moi seul, mais les jeunes que je côtoie sur le terrain, si ça vient sur le sujet, c'est sûr et certain que j'essaie de démystifier ce qui est glorifié sur les médias sociaux par rapport aux armes à feu et le crime, que c'est pas toujours vrai ce qu'on voit sur les médias sociaux. Puis d'ailleurs, j'ai participé à quelques ateliers cet été avec les jeunes qui faisaient partie des activités de la Maison des jeunes, HMED. Puis c'est un sujet qu'on a touché justement, qu'on parlait de des jeunes qui glorifient un petit peu les membres mm-hmm. de gang qui se montrent sur les réseaux sociaux.
Monsieur Petit, vous jouez avec les jeunes, mais est-ce que ces jeunes-là se confient à vous? Ou ça se limite au jeu?
Écoutez, si les jeunes veulent se confier, on est là pour ça. Mm-hmm. S'ils ne veulent pas parler ou sont pas prêts à parler, c'est correct. Nous, on mise seulement sur la partie de basketball. Puis, c'est à prime abord, c'est ça. Par la suite, s'il y a des jeunes qui veulent parler, on les écoute, on peut les référer à des organismes mm-hmm. Partenaires avec lesquels on a un partenariat. Sinon, on peut les référer aussi à d'autres sections dans la police de Laval pour les aider. Mais le but premier, c'est pas ça. C'est vraiment là, l'image puis le rapprochement communautaire.
Je comprends. Mais le sentez-vous tout de même? Parce que des jeunes, j'imagine, qui doivent se sentir un peu seuls des fois au monde, je me dis... vous êtes là, grand gaillard, à jouer au basketball ensemble. Je me dis peut-être que ces gens-là ont besoin de jaser.
Ils sont seuls. Parce que ce sont parfois de grands enfants, façon de parler.
Oui, là, exactement.
Ça dépend de leur âge, mais c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui ont l'air d'avoir la couenne dure, comme on dit, mais c'est pas toujours le cas. Ils ont quand même leurs propres défis, hein?
Non, exact. Bien, c'est sûr que la première fois que je les ai rencontrés avec les intervenants dans les centres communautaires, j'étais en civil, je n'ai pas d'uniforme. Mm-hmm. Juste pour faciliter un petit peu l'introduction, déjà l'uniforme, ça a un impact sur les jeunes. Donc, on commence avec des rencontres en civil. Puis, juste le fait que les jeunes sachent que je suis policier, déjà là, il y avait une petite réticence, mais je voyais clairement que semaine après semaine, à force de les côtoyer, de leur parler, d'avoir une discussion ouverte avec eux, leur attitude changeait là en très peu de temps. Puis il y en a qui me posaient des questions sur toutes sortes d'interventions. Donc je vois vraiment une différence là quand on a des rencontres ponctuelles et pas juste des rencontres ou des activités 2-3 fois par année. Il faut vraiment que les policiers, les mêmes policiers soient actifs avec leurs organismes, puis que les mêmes policiers, à chaque semaine ou aux 2 semaines, ben, aient des rencontres avec les jeunes pour créer ce lien de confiance-là.
Oui, alors donc, vous qui connaissez bien les vrais, là, les motards, enfin, les têtes d'affiches de gang et tout, alors c'est sûr que, bon, au lieu d'être blasé, cynique, bon, vous avez quand même opté pour la prévention. C'est vraiment très intéressant comme démarche. Et en fait, vous, comme vous dites, vous ne pourrez pas nécessairement tous les sauver, mais en fait, je pense que vous allez pouvoir certainement en sauver quelques-uns.
C'est le souhait que j'ai et que l'organisation a, c'est l'avenir, c'est la jeunesse, si on peut prévenir le crime, si on fait rien, c'est les jeunes, ça va être nos criminels de demain. Donc c'est maintenant qu'on doit agir puis créer des liens, puis si on peut en sauver quelques-uns, c'est dur de quantifier le résultat de la prévention. C'est dur de quantifier, OK, tel jeune, il est plus dans le crime à cause de la prévention. C'est ça qui est un petit peu plus difficile de...
Ouais. Là, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que vous voyez une différence? Mais c'est difficile de dire ce que vous apportez auprès de ces jeunes-là.
Mais sûrement que c'est vraiment... On a toujours dit, d'ailleurs, bon, la prévention, c'est quand même... en amont, il n'y a rien de tel. Il faut quand même... c'est vraiment la base.
Exact. Il y a la répression, il y a l'intervention, puis il y a la prévention, puis les trois vont ensemble là, pour contrer la criminalité. Là. Mm-hmm. Je crois que c'est l'objectif là, du service d'investir dans la prévention pour les prochaines années. Là. D'ailleurs, ça fait déjà plusieurs années qu'ils investissent dans la prévention. Mm-hmm. Mais comme je vous disais plus tôt, le fait que je côtoie ces jeunes-là, qui viennent de tous les milieux. On voit que semaine après semaine, leur idée change de la personne du policier. Et puis, ça fait son chemin. Là. L'idée des jeunes a fait son chemin.
Monsieur Petit, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte, vous?
Écoutez, avant d'être en police, j'ai été jeune, j'étais un adolescent.
Mm-hmm.
J'ai grandi avec des jeunes qui ont malheureusement mal viré, mm-hmm. qui sont allés vers la criminalité, des jeunes de mon quartier que j'étais ami avec. C'est sûr que j'avais l'encadrement de mes parents. J'ai eu la chance d'avoir mes deux parents avec moi présents, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeunes qui sont défavorisés, qui sont vulnérables. J'ai pris le chemin de la police, mm-hmm. tandis que mes amis de l'époque sont tournés vers la criminalité.
Okay.
Puis je crois fermement que avoir eu un policier présent dans notre quartier, dans notre communauté, on aurait pu en sauver quelques-uns. C'est sûr que côté physique, là, quand je joue avec des jeunes de 14-15 ans qui me font courir sur le terrain, là, à l'âge que j'ai, là, ça me fait brûler beaucoup, beaucoup de calories. Donc, ça me garde en forme aussi.
Oui, tout à fait. Est-ce que, je voulais vous demander aussi en terminant, est-ce qu'il y a des parents qui viennent vous voir là un petit peu discrètement parfois? Est-ce que vous pensez que les parents sont là, sont présents malgré tout?
Oui, mais il y a des parents qui assistent leurs jeunes, qui viennent les porter au parc à chaque semaine. Souvent, ils ont le temps de parler à nos policiers. Puis, c'est sûr que la réponse est positive. Les parents sont vraiment heureux que ce projet-là existe. Ils nous demandent souvent là, si le projet va continuer. On travaille fort là-dessus pour le continuer pendant l'année scolaire.
Oui, parce que là, évidemment, ce serait bien aussi qu'il y ait un suivi. On sait que l'été, c'est souvent le moment, comme on l'a dit au début de l'entrevue, le moment et le contexte parfait pour commettre son premier délit, hein, et après ça, se retrouver dans un mauvais engrenage. Alors, évidemment, par votre passion, là, ça permet de canaliser peut-être un petit peu plus les énergies, mais enfin, et puis aussi d'éviter d'être un peu plus attentif au réseautage aussi de ces jeunes-là, tu sais, les amis, les relations qu'ils entretiennent. Enfin, j'imagine, hein, ça doit être important.
Alors, exact. Puis, je veux juste, en finissant, là, les citoyens qui voient la police, les parents qui voient la police occuper leur parc, occuper les jeunes, c'est juste une vague d'encouragement qu'on reçoit là, par les spectateurs qui viennent, les parents qui sont dans les estrades, qui regardent juste d'autres jeunes qui sont pas les leurs jouer au basketball avec les jeunes. C'est vraiment positif pour tout le monde.
C'est merveilleux. Alors, on rappelle le projet Basket dans mon parc. Vraiment, Marc-André et Alexandre Petit, c'est vraiment très encourageant de vous voir aller. Et puis, c'est dans le quartier Chomédé, à Laval, hein, que vous, le parc en question.
Exact. Le parc Coccinelle.
D'accord.
Tous les jeudis de l'été, de 18h30 à 20h30. Puis, on travaille fort pour continuer ça à l'intérieur là, pendant l'année scolaire.
On vous le souhaite.
On vous le souhaite. C'est un beau projet. Merci infiniment d'être venu nous en parler.
Bien, merci pour l'invitation.
D'accord.
Bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir. Bye-bye. Thank you.
Et j'accueille maintenant Catherine Bourderon. Catherine, recherchiste ici même à Canal M. Alors, on a travaillé ensemble durant les deux dernières années. Hein, tu étais là, évidemment, pour bâtir le contenu, entre autres. Alors, on a... Puis tu as agi aussi en tant que chroniqueuse également. Et tu en fais des chroniques à l'occasion dans certaines émissions.
Absolument. Alors, pour cet été, je vais parler d'amitié.
Oui, c'est ça, ta première chronique avec nous.
Et la semaine prochaine, il sera question de solitude. Mais j'aime beaucoup faire de la radio avec toi, Chantal, tu sais bien.
Oui, mais là, c'est notre beau sujet, l'amitié. C'est intéressant d'en parler parce que l'amitié, sous toutes ses formes, d'ailleurs, est très important parce que l'amitié, c'est ça, comme je le disais en début d'émission, finalement, on dit toujours que l'amitié dure parfois plus longtemps que l'amour.
Oui.
Et là, tu vas nous parler, en fait, c'est beaucoup parce que tu t'es inspirée d'un livre qui s'appelle « S'engager en amitié ».
Oui, donc c'est un essai. Alors, le livre s'appelle « S'engager en amitié » de Camille Toffoli, aux éditions Radar, pour souligner le 30e anniversaire de la maison d'édition Éco-Société. Radar a lancé une collection d'essais destinée aux jeunes de 15 à 19 ans, dont « S'engager en amitié ». Alors, Camille Toffoli est la cofondatrice de la librairie féministe Le Glion à Montréal. Depuis plusieurs années, elle collabore à titre d'essayiste, de critique, de chroniqueuse. Elle a publié Filles corsaires aux éditions Remus Ménage en 2021, pour lequel elle a reçu le prix Librairie Québec 2022. Et voilà que nous avons eu en 2023 S'engager en amitié. Donc, c'est un essai. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Donc, l'axe de pensée de l'autrice met en lumière que notre système est fondé sur la primauté du couple et de la famille. En fait, c'est un modèle d'économie d'être en couple.
Oui, c'est-à-dire que toute l'économie est basée sur le principe du couple, effectivement.
Et de la famille.
Oui, et
donc,
la famille. Donc,
les amis, c'est bien loin dans les priorités de notre société. Puis, elle décortique minutieusement tous les aspects de l'amitié avec beaucoup de bienveillance et aussi les revers de l'amitié. Donc, le livre est construit en 7 chapitres. Il y a différentes formes d'amitié, donc l'amitié en ligne, les amitiés féminines, les amitiés masculines, les amitiés sportives, les amitiés en colocation. Donc, malgré ce qu'elles peuvent apporter les amitiés, elles sont reléguées au second plan, comme on disait plus tôt, et le couple et la famille prend toute la place. Vous avez eu ce livre en main, un beau livre orange, avec du fuchsia en couverture. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre-là? À quoi ça vous a fait réfléchir? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui a été prise à la suite de la lecture de quelques paragraphes?
Bien, c'est-à-dire que, bon, je trouve ça intéressant comme sujet, surtout que là, on décortique effectivement, bon, comme tu l'as dit, l'amitié dans toutes ses formes. Et puis, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que on parle des impacts négatifs du sexisme ambiant sur les amitiés entre filles et également, bon, tout ce qui est masculinité toxique également pour les garçons. Évidemment, on a toujours la perception aussi que les amitiés entre filles, bon, on est des concurrentes quelque part. On parle de le fameux mot, tu sais, les filles, là, elles se bitchent entre elles. Là, tu sais, bon, ça se dit très souvent, c'est pas un terme que j'emploie régulièrement, mais bon. Alors, mais c'est un peu fausser les choses finalement. Puis c'est encore toujours en regard de la compétition qu'on a entre nous, finalement, due à l'espèce de système patriarcal, finalement, où on doit aussi, la compétition par rapport, aux hommes ou enfin à tous ces le regard que les hommes posent sur les femmes. En fait, il y a tout cet aspect-là que je trouve intéressant.
C'est sûr, elle dit, les filles ont l'impression qu'il faut qu'elles soient les plus cloutes, les plus belles, les plus désirables pour aller chercher l'approbation des gars.
Puis ça vient puis autant dans le travail, c'est ça aussi.
Mais ça, ce qui est intéressant, c'est ce qui m'a fait longuement réfléchir. C'est que lorsqu'on est jeune, et elle relate cette pensée, donc je la reprends, c'est pas moi qui ai pensé à ça, ça m'a fait réfléchir. C'est que lorsqu'on est jeune, il y a le complexe d'Œdipe, on veut plaire au père, notre papa, et papa nous protège, notre père nous protège. Donc inconsciemment, on a toujours besoin d'être protégés par le regard au masculin. Parce que on est belle, on va être bonne, on va être fine.
C'est ça, dans notre système patriarcal, c'est comme ça.
Et dans la vie, plus tard, inconsciemment, on reproduit ces schémas. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la rivalité entre les femmes.
C'est ça.
C'est qu'on veut que le patron soit fin, notre patron nous aime. On veut que notre...
On veut une promotion.
On veut...
Bien sûr, non, mais
attention,
je veux dire...
c'est terrain glissant parce qu'on va revenir sur les... Faut-il être amoureux de nos amis? Mais c'est ça qui est intéressant. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a aussi une sororité qui existe. Et cette sororité...
Mais elle est beaucoup plus présente qu'on pense. C'est ça qu'en fait le livre nous dit aussi.
Oui, parce que ce que vous deviez lire, je vais lire à votre place... Lecture Chantal, on devait lire. Nous sommes conditionnés, la rivalité entre femmes est savamment cultivée par papa et ses incarnations. Elle désigne autant les patrons, les mentors, les professeurs, les futurs maris. Je me suis posé la question, il y a des icônes de beauté finalement, parce qu'il y a... Il y a des icônes de beauté et des femmes très connues comme Dalida, Romy Schneider, qui se sont suicidées, Marilyn Monroe. Donc, ces femmes avaient un pouvoir sexuel, OK? Mais est-ce que le fait que c'était belle et qu'elles avaient un pouvoir sexuel, elles n'ont pas été supportées par des femmes,
par des amis, par des sœurs, par des... Effectivement, vous parlez de sororité, c'est exactement ça. Est-ce que ces femmes-là ont été supportées ou elles étaient toujours placées, en fait, en rivalité les unes avec les autres?
C'est ça que ça m'a beaucoup réfléchi.
Et si elles avaient eu des
pourquoi les femmes n'ont pas été davantage solidaires avec ces icônes de beauté.
Ouais.
Et on parle aussi évidemment d'amitié masculine. Donc, elle dit dans le livre que les hommes, en moyenne, ont plus de difficultés que les filles à entretenir et à approfondir des amitiés. Or, j'ai fait des recherches et une étude publiée à l'hiver 2009 dans le Psychology Science est réalisée conjointement par, en tout cas, plein de noms, des psychologues à l'UQAM et puis des noms, etc. Ils disent avec des gens de Harvard University que les relations d'amitié entre hommes seraient plus solides et durables que celles des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est-à-dire que je ne sais pas trop quoi en dire, parce qu'en fait, dans un sens, non, je ne vois pas ça du tout, non, du même œil. Je pense que les amitiés de femmes peuvent au contraire être encore plus profondes, mais je ne vous dis pas que ça n'existe pas, des amitiés d'hommes très profondes qui vont durer très longtemps. Je pense que ça peut s'équivaloir entre hommes et femmes, sûrement. Oui.
OK, et il est question, ça faudrait avoir un homme autour de nous. Samuel, ça te tente de...
de te joindre à nous de la discussion. Mais je pense que c'est s'équivaloir.
Il y a aussi un autre chapitre qui m'a fait réfléchir dans ce livre. C'est est-ce qu'on devrait avoir des rapports sexuels avec nos amis.
Ah oui, toi, ça t'a interpellée. Bon, faut dire aussi que ce livre-là...
Je vous rassure tout de suite.
Ce n'est pas une pratique que je fais régulièrement. Mais ça t'a interpellée quand même dans le sens que... Aussi, il faut dire qu'on parle quand même là-dedans de la communauté LGBTQ qui peut-être, a peut-être une ouverture, mais encore là, tout est relatif. Là. On y va avec des clichés, bien souvent des impressions qui sont parfois fausses, de penser que parce qu'on fait partie de la communauté LGBTQ+, on a plus de relations sexuelles avec tout le monde. Oui, il y a des gens qui sont plus fluides, d'accord, mais ça, c'est autre chose.
Mais en fait, ce qu'elle dit dans le livre, elle-même est bisexuelle, donc elle parle parfois dans le livre de ses expériences autant amicales que sexuelles. Ouais. Mais moi, ce qui a retenu mon attention dans cet essai, c'est sa réflexion. Elle dit « On m'a toujours appris que l'amour et le désir étaient indissociables. J'ai grandi croyant que la sexualité idéale est une sexualité pratiquée dans le cadre d'une relation amoureuse dite sérieuse. J'ai souvent entendu qu'il valait mieux ne pas mélanger le désir et l'amitié, qu'en couchant avec des amis, on risquait de créer des malaises inutiles. Le sexe m'apparaissait comme un terrain dangereux. » en s'y aventurant, on risquait de compromettre l'image que les autres ont de nous et de créer des fausses attentes et des malentendus. Bon. Et j'ai fait un vox pop là-dessus. Oui. J'ai fait, est-ce que vous avez des rapports intimes avec vos amis? Je veux dire, c'est une question qui se pose au dessert, comme ça, pour détendre.
C'est ça. Mais là, on a 40 secondes, ma chère.
C'est déjà fini?
Mais oui. Oh. Alors, je pense que tu vas laisser la réflexion en suspens là, pour nos auditeurs.
Mais en tout cas, je suis sûre, en conclusion, c'est
30 secondes.
30 secondes. Mais je veux dire que les amitiés sont rares. Elles se font sur les bancs d'école et que la structure économique actuelle ne permet pas toujours d'avoir des amis. Mais faites attention à vos amis.
Oui, c'est très important.
Ils sont très précieux.
On en reparlera sûrement. Il va falloir en reparler. merci, Catherine. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Vous savez, demain, on reçoit Catherine Brunet. On va passer l'heure avec elle. On l'a vu dans In Memoriam. On l'a vu dans plein de séries. Alors, on la reçoit demain. Bonne journée.